Bonjour à tous, vous m'entendez bien? L'air de rien, ça fait le sixième culte, sixième dimanche après confinement. Pas mal! Vous savez qu'il y a à l'heure actuelle des églises évangéliques qui n'ont pas pu rouvrir, encore. Par exemple, à Vesoul, c'est une église sœur qui fait partie de la région Est de la Fédération Baptiste. Ils n'ont pas pu recommencer. Et je crois aussi qu'il y a une ou deux églises dans le pays de Montbéliard. C'est la même chose. Vous êtes content que nous ayons pu recommencer? Oh oui! Quelle joie de louer le Seigneur ensemble et de l'adorer. Et ces beaux chants nous préparent et nous ont déjà préparés pour la suite. On va lire l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'un miracle. Une histoire qui nous a été rapportée par l'évangéliste Jean. Ça va apparaître devant vos yeux, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 43 et suivants. Et je vais vérifier si je vois mieux. C'est formidable. Depuis l'opération de ma cataracte, de nouveau je vois. Eh oui. Et il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Donc c'est Jésus, hein. Or, à Capernaum, vivait un haut fonctionnaire, dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas à la suite. » Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. »« Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Écoutons la suite. « Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. » Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Ce texte nous relate une rencontre qui a bouleversé la vie d'un homme, cet officier royal qui habitait Capernaum. Il y a quelquefois des rencontres qui nous bouleversent, qui changent complètement notre vie. La rencontre de votre conjoint, par exemple, avec votre conjoint futur, et d'autres situations aussi. Cet homme va vraiment rencontrer quelqu'un qui va changer, bouleverser non seulement sa vie personnelle, mais sa vie familiale. Il s'agit d'un serviteur d'Hérode Antipas. Cet homme, ce roi, régnait sur la Galilée à cette époque. On lui donnait le titre de roi, Hérode Antipas, mais en réalité c'était un petit roitelet soumis à la domination romaine. Jésus, après avoir fait un séjour donc à Jérusalem, où il accomplit de nombreux miracles, où il se fait une renommée de guérisseur, vient faire le trajet jusqu'en Galilée. Vous voyez, hein? Et là, il revient dans une ville qu'il connaît bien, Cana, puisque c'est à cet endroit qu'a eu lieu le premier miracle. L'eau changée en vin. Jésus s'arrête dans cette ville et tout à coup, il voit venir à lui un homme, un officier royal, chargé d'un très très lourd fardeau. Son petit garçon chéri, c'est comme ça qu'il faudrait traduire avec le texte original, est gravement malade. Il a beaucoup de fièvre. Si vous voulez, je vais essayer d'aborder ce texte à l'angle de trois pensées concernant la foi. Une foi de débutant, une foi timide, chancelante, une foi qui s'appuie sur la parole de Jésus, il crut à la parole de Jésus, et une foi, en troisième lieu, qui est un véritable miracle pour la personne qui croit, miracle plus grand que pour le fils qui est guéri. La foi qui débute, c'est la foi en un guérisseur, Jésus, faiseur de miracles. Jésus qui s'est fait une renommée à Jérusalem. Voyez ce petit gars de Nazareth qui est de la Galilée, mais on connaît bien la Galilée, nous aussi on a l'accent galiléen, disent ces pèlerins qui sont allés également à Jérusalem. Il s'est fait vraiment une renommée de traumaturge, de guérisseur, de faiseur de miracles, de choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus va faire une remarque qui va certainement déconcerter ces Galiléens et déconcerter aussi cet officier royal qui le supplie. Jésus va dire, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Oui, il peut arriver, il faut rester positif, que la naissance de la foi dans un être humain, qu'il soit français, chinois, franc-comtois, commence par la connaissance d'un Jésus qui fait des miracles. Ce n'est pas un mal. Et nous voyons dans beaucoup de textes bibliques que la foi a commencé parce que des personnes ont cru à la suite de miracles de Jésus. Seulement, il faut faire attention. Nous, les croyants qui vivons dans cette société du 21e siècle, où nous voudrions avoir tout de suite, qu'est-ce que nous aimons? Un Jésus qui fait immédiatement des miracles pour répondre à nos caprices? Qu'est-ce que nous aimons ce Jésus-là qui s'approche et qui répond immédiatement comme nous l'aurions bien voulu. Attention. Si notre foi n'en reste qu'à ce stade-là, nous risquons d'être très découragés. Pourtant, la foi chrétienne commence par une connaissance de Jésus. D'un Jésus qui est dépeint d'une manière encore vague, imprécise. Beaucoup de Français moyens ont appris à connaître Jésus au travers des écoles du dimanche, mais aussi du catéchisme chez M. le curé. Beaucoup de Français moyens ont eu des éléments sur le Christ par rapport aux cours de religion ou d'histoire qu'ils ont reçus. Et c'est bon. Mais cela n'est pas suffisant. Si nous nous arrêtons à ce Jésus qui répond par des miracles et des signes miraculeux sans l'honorer, alors nous passons à côté du sujet. Cet officier royal a eu de bonnes informations sur Jésus, ce qui s'était passé en Judée, à Jérusalem. La renommée que Jésus s'était faite est allé même jusque dans la chambre d'un mourant à Capernaum. C'est pour ça qu'il se déplace et qu'il veut rencontrer Jésus à Cana, en Galilée aussi. Il y a 30 km à faire. Et ça monte pour aller de Capernaum dans cette région de Galilée. Il va être tout d'abord peut-être surpris par cette réponse de Jésus. Vous ne croirez que si vous ne voyez que des miracles. Mais il ne va pas se décourager. Il va insister. Il va supplier de nouveau Jésus d'intervenir à cause de son petit garçon qui a la fièvre et qui est très gravement malade. Il insiste. Il continue. Et il va avoir une réponse étonnante qui va vraiment le surprendre. Jésus, je le répète, n'est pas contre le fait que notre foi commence par des grands miracles corporels dans notre vie ou autre chose. Mais Jésus veut dire par la réponse qu'il avait déjà donnée à cet homme et aux Galiléens, « Si vous en restez là, vous n'irez pas loin, je vous l'assure. » Le signe miraculeux, dans bien des situations, n'est que secondaire. Il ne va pas conduire à la vraie foi miraculeuse dans notre cœur. Ce que Jésus veut, c'est d'abord que nous le suivions, que nous lui obéissions, que nous faisions sa volonté coûte que coûte, et je ne vous cache pas que ça va être de plus en plus difficile de suivre Jésus aujourd'hui. De plus en plus difficile, parce que nous nous heurtons à un monde hostile, de péché, antichrist. La foi de cet officier, ça commence par là. Une foi sur le miracle, une foi sur des choses extraordinaires, mais là on arrive au deuxième stade de sa foi, celle-ci va s'affermir. À la suite de cette supplication, Jésus va être touché dans son cœur pour la situation du petit garçon, de cet officier royal. La foi qui était basée sur le simple miracle extérieur va devenir une foi qui est basée sur la parole de Jésus. Est-ce que notre foi est vraiment basée sur la parole de Jésus? Savons-nous que dans les évangiles, il y a plus de paroles de Jésus que de miracles de Jésus en quantité? Savez-vous que même sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles qui, pour nous, peuvent nourrir notre foi en lui. Ce Père qui a insisté va être récompensé. Il va entendre une chose très simple. Il va entendre cette parole. « Va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » C'est pas long. Peut-être cet homme s'attendait-il à quelques remèdes, à quelques antibiotiques, si tant est que cela existait à l'époque. Il va repartir uniquement avec une parole de Jésus. Va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Et il crut à la parole de Jésus. Cette expérience va le fortifier et le faire grandir dans sa foi. Et il s'en alla pour vérifier si Jésus avait bien dit la vérité, que son fils chéri était guéri. Croire à la parole de Jésus. Vous allez me dire, mais ce que tu dis, Luc, on le sait déjà depuis très longtemps. Saisir tous les jours les promesses, l'enseignement, les avertissements de Jésus dans les évangiles. Apprendre de tout cœur et par cœur tout ce que Jésus dit pour contempler aussi ce que Jésus fait. Combien de paroles de Jésus savons-nous par cœur? Basons notre foi sur ces paroles. Le centenier, l'officier royal, crut à la parole de Jésus. Et Jean, qui aime beaucoup dans ses évangiles les expressions foi, croire, confiance, il a bien relevé cela. Il crut Jésus sur parole. C'est typique de Jean. Pourtant, cet homme n'a pas encore constaté que son fils était guéri. Et il faut faire tout ce parcours pour le vérifier. La vraie foi, frères et sœurs, convertis depuis 40, 50 ans, depuis 6 mois, elle est toujours basée sur la parole de Jésus. On est fichu si notre foi n'est pas basée sur la parole de Jésus. On n'ira pas loin. C'est une joyeuse certitude. Maintenant, je vais vous raconter un événement récent qui est arrivé. Un événement récent, c'est le témoignage d'un pasteur, Christian Blanc, président du CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Rescapé du Covid-19, il a failli y rester. C'est le journal anglais chrétien, Christianity Today, qui l'a interviewé. Et dans cette interview, il y avait la question suivante. Qu'est-ce qui vous a soutenu durant votre séjour à l'hôpital? Réponse de Christian Blanc. Les textes bibliques que j'avais lus si souvent, médités et prêchés aux autres, ont été pour moi un rocher sur lequel j'ai pu construire, un rocher sur lequel j'ai pu construire ma confiance en Dieu et mon espérance dans sa bonté et sa fidélité. Et Christian Blanc ajoute, je repassais dans mon esprit Ésaïe 30:15 qui va apparaître maintenant. Ésaïe 30:15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et voilà que d'un seul coup, ce pasteur qui a prêché des dizaines de fois sur ce texte, à son église, eh bien, dans cette situation où il allait passer en quelque sorte de vie à trépas vers le Seigneur, cette parole de Dieu s'est comme incarnée dans son cœur. Elle est devenue comme vivante, comme jamais auparavant. Jamais. Et il le dit. Basons nous aussi, notre foi sur une parole de Jésus qui fait corps, qui fait cœur avec nous. Ce Christ qui s'est fait chair, cette parole qui s'est fait chair en nous. Dans nos moments de joie, dans nos moments de questionnement, dans nos moments de tristesse, uniquement basés sur les paroles de Jésus. Retenons ces paroles de Jésus. Prenons-les, mangeons-les, il est le pain de vie. Et notre foi va grandir. Combien de temps passez-vous à retenir, à méditer les paroles de Jésus? Mais nous revenons à notre histoire. Voilà que maintenant cet officier royal a décidé de retourner vite vers son fils. Il retourne maintenant et ça descend, puisqu'il va de Cana, il va jusqu'à Capernaum. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Nous nous posons la question, est-ce que c'est bien vrai? Ce que Jésus a dit maintenant, ton fils est bien portant? Il a cru. Mais vous savez, des fois, la foi, elle peut être cernée par des doutes et puis des confiances. Qu'est-ce qui a dû se passer dans sa tête comme un cinéma? Est-ce que c'est bien vrai ce que Jésus a dit? Et peut-être aussi, pourrait-il de nouveau reprendre confiance? C'est vrai, il l'a dit. J'y ai cru. Ça s'est passé à 1h de l'après-midi. nous dit le texte. La septième heure, pour les anciennes versions. Et il descend. Il va vers Capernaum. Mais Dieu est si bon, Dieu est tellement merveilleux, qu'avant qu'il arrive dans la chambre de son fils bien portant, Dieu permet des serviteurs qui viennent lui annoncer cette bonne nouvelle. « Eh oh ! Le gars de Galilée, le fils de Dieu, ne t'a pas trompé ? Ton fils est bien portant. » Oh là là, quelle nouvelle ! C'était vrai. Il avait basé sa foi sur la parole de Jésus et il n'a pas été déçu. Et il pose la question à ses serviteurs qui viennent à sa rencontre. Mais à quelle heure cet événement a-t-il eu lieu ? À la septième heure. Exactement à la seconde près, au moment où Jésus a prononcé cette parole. « Va, rentre chez toi, ton fils vit. » Vous ne trouvez pas que c'est formidable ? J'arrive maintenant donc au troisième stade de cette foi, c'est que ça devient une foi contagieuse. Il nous est dit, il crut, lui et tout ça, vous vous rendez compte ? Et la notion de famille en Palestine, ce n'est pas seulement les frères et les sœurs, ce n'est pas seulement l'épouse, c'est aussi les serviteurs, les esclaves, toute la maisonnée. Parce qu'il nous est dit, il crut lui et toute sa maison. Est-ce que nous en sommes au stade d'avoir une foi contagieuse, tellement rayonnant, tellement remplie des paroles de Jésus, que les autres vous regardent à deux fois et disent, c'est plus la même personne. Une foi contagieuse. Qui contamine notre maison. Ah, je préfère la foi chrétienne qui me contamine que le coronavirus. Et cette foi en tant que telle est un miracle. Est un miracle. Déjà, bien sûr, il y a le miracle de la guérison du fils, c'est pas mal. Mais la foi en tant que telle, dans le cœur de cet officier royal et dans la maisonnée de celui-ci, est un miracle. Prions le Seigneur que de multiples, M. Dupont, Mme Durand, nos Français et toutes sortes, vivent en eux ce miracle de la foi en Jésus, qui transforme les vies. Parce que maintenant, il a compris une chose, cet officier royal. Ce Jésus, ce n'est pas seulement le petit gars de Galilée qui fait des miracles. Non, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il décide que désormais, il met toute sa confiance en lui, en tant que Seigneur et Sauveur. Ça change tout. Et quand on a vécu un tel miracle, on ne peut plus se taire. Ce n'est plus possible. C'est exactement ce que j'ai vécu dans une équipe que l'on appelait l'équipe volante, alors que je faisais mes études à l'Institut biblique de Nogent. Nous allions faire de l'évangélisation partout. Et quand nous nous trouvions dans le métro, à l'époque, il n'y avait pas de problème, bien fort, je ne pouvais pas me taire. Je disais devant tout le monde, à l'autre bout du métro, pas dans le métro en tant que tel qui roulait, mais là où on attendait le métro. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une foi contagieuse, c'est le miracle du cœur qui est rempli. Et quand le cœur est rempli, on ne peut plus se taire. Regardez le texte qui va venir devant vos yeux maintenant, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. On va le lire ensemble. Vous le voyez ? Enfin, c'est plutôt par ici que vous le verrez. Donc, La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Voulez-vous le répéter avec moi? Est-ce compliqué? Les enfants, c'est bon? Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Et un autre texte aussi que Jésus nous a laissé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui s'est passé avec ce centenaire royal. Son cœur était tellement rempli de ce miracle de la foi en Jésus que toute sa maison a été touchée. C'est ce que j'appelle le miracle de la foi. C'est une foi vivante et communicative, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est tellement vrai que cette foi a un impact sur toute la maisonnée. Les jeunes, est-ce que vous connaissez Olivier Giroud? Mathieu, qui c'est? Un footballeur. Quel type de footballeur? De quelle équipe fait-il partie? Les jeunes. L'équipe de France, mais aussi l'équipe de Chelsea en Angleterre. C'est un Français, c'est un vrai nom français, ça. Olivier Giroud. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018. Un joueur toujours prêt à marquer un but. Il est toujours placé au moment opportun. Depuis quelque temps, déjà, Olivier Giroud professe sa foi chrétienne. Il ne s'en cache pas. Et pendant cette période de confinement, voilà ce que nous a dit ce footballeur. Cela a été retransmis par Nicky Gumbel, vous savez, le fondateur d'Alpha International. Et Olivier Giroud, il a le cœur tellement rempli du Seigneur qu'il partage sa foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit. J'ai suivi le parcours Alpha en ligne. Ben oui, il ne pouvait pas faire autrement pendant cette période de confinement. Ces deux derniers mois. Je dois dire que ce fut une expérience fantastique de partager ma foi avec des amis d'une manière moins agressive, parce qu'avec les méthodes, en quelque sorte, du cours Alpha. J'ai vraiment apprécié et je suis content que mes amis puissent en profiter aussi. Je pense que l'officier royal était content que sa maisonnée puisse en profiter aussi. À la fois de retrouver ce petit gamin qui courait partout, qui était guéri, qui était bien portant, qui n'avait plus besoin de rester dans sa chambre confinée, c'est le cas de le dire, mais parce que l'officier royal avait rencontré le Christ, c'était un autre homme, le Christ sauveur, le miracle de transformation. Donc il a communiqué. Je ne suis pas Olivier Giroud, mais je trouve formidable que des êtres humains très connus, des footballeurs, des artistes, des hommes politiques, confessent sans se cacher qu'ils ont Jésus comme maître et sauveur. Et c'est ce que j'appellerais ce troisième stade de la foi, où vraiment c'est une foi contagieuse. Pas seulement d'ailleurs avec des paroles, ça commence d'abord par une vie transformée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Mathieu, tu savais qu'Olivier Giroud était chrétien? Ben voilà. Cette période de confinement a encore plus fortifié sa foi, peut-être, à tel point qu'il la partage. Comme l'officier royal. Une foi qui commence par le gars de Galilée, grand faiseur de miracles, tout puissant. Cette renommée arrive dans la petite chambre de ce petit garçon très malade. Il se déplace, il fait ses 30 kilomètres, il monte sur Cana, il rencontre Jésus. Jésus ne lui parle pas beaucoup. Va, rentre chez toi, ton fils vit. une fois qu'il continue par le fait qu'il croit et prend au mot la parole de Jésus. Et une fois qui atteint son apogée, ou qui se termine, si je puis dire, au travers de ce grand miracle d'une vie transformée. Parce que Jésus est devenu son Messie. Pas oublier que les Juifs attendaient le vrai Messie. Son Messie et son Sauveur. Voilà ce que je voulais partager. Où en êtes-vous dans votre stade de foi, si je peux dire, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous allons prier maintenant. Et dans notre cœur, nous pouvons demander à Dieu qu'il fasse grandir notre foi pour que, si petite soit-elle, ça soit une foi fixée sur Jésus, sur les paroles de Jésus, une foi miraculeuse qui nous transforme entièrement. Après tout, on a beau avoir 50 ans de vie chrétienne, notre foi a toujours besoin de nous transformer. N'êtes-vous pas d'accord, les vieux de la vieille? Comme moi. Comme moi. Prions. Tu nous épates toujours, Seigneur. Tu es merveilleux. Avec toi, il se passe des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Ça dépasse notre intelligence humaine. Comment ne pas dire tu es merveilleux? Comment ne pas dire que tu es un sauveur extraordinaire? Et ensemble, nous te disons, Père, au nom de Jésus, que nous grandissions dans la foi. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, nous nous disons convertis, baptisés, mais nous savons que nous avons un potentiel que tu mets en nous, cette foi profonde, cette foi qui devient un miracle de transformation dans nos vies. Bénis chacun des enfants ici présents, des jeunes, des adultes. Bénis chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Merci que tu reviens bientôt. Et quand nous serons avec toi dans le ciel, il n'y aura plus besoin de la foi. Ce n'est pas nécessaire, parce que nous te verrons directement, tel que tu es. Pour l'instant, nous marchons par la foi. S'il y avait des personnes parmi nous qui étaient dans des périodes de questionnement, de doute, de difficulté, c'est vrai que les choses n'ont pas été faciles, et dans notre Église, et à cause du confinement. Oh, je voudrais vous exhorter à avoir les regards sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un chef en matière de foi. Tu veux bénir, Seigneur, chacun, chacun et chacune, aujourd'hui. Et bénir, c'est nous transformer. Et bénir, ça veut dire nous aider de faire des pas de géant. Et bénir, ça veut dire envers et contre tout, persévérer jusqu'au bout. C'est ça, bénir. Aide-nous. Et merci que tu es vivant. Amen.